Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui jongle entre l'info et l'humour comme un clown bourré sur un monocycle suspendu à 6 mètres du sol. Cela dit, attention, comme ce clown, derrière l'apparente décontraction, beaucoup de professionnalisme, notamment grâce à Céline Dacosta, Eva Roque et Céline Kallmann, qui, durant les reportages de son journal, pourraient se laisser distraire par la coiffure d'une présentatrice de chaîne info qu'on voit sur l'un des multiples écrans du studio. Oh, 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 jamais donc. De la vie.
Savourez plutôt ce reportage.
On parle de la queue de cheval de la meuf de CNews.
Elle a une queue de cheval un peu bizarre.
Ah ouais,
bizarre cette queue de cheval.
C'est moche.
C'est pas juste une queue de cheval, il y a une tresse.
Oui, elle a une tresse queue de cheval.
On dirait, tu sais, le truc que tu fais aux chevaux.
Et c'est ça.
Non, mais c'est vrai.
Non, c'est vrai. Mais j'allais le dire, totalement.
Petit poney.
Oh, puis on n'écoute pas Mbaché du coup.
Reportage savoureux, je vous l'avais dit.
Savoureux, reportage, effectivement. Heureusement, Debout les copains, c'est aussi Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui, ce matin, au lendemain d'une journée houleuse hier dans les rues, revient sur les 1er mai les plus violents de l'histoire.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 2 mai. Et très bon réveil, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Toute l'info de ce jeudi 2 mai. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Une trentaine de personnes placées en garde à vue hier après une intrusion à la Pitié-Salpêtrière à Paris, en marge de la manifestation du 1er mai. L'APHP va porter plainte. Christophe Castaner emploie le mot « attaque ». De ce 1er mai, on retiendra les violences, mais pas seulement. Une très forte mobilisation, la plus forte depuis 7 ans. À la une aujourd'hui, le dénouement pour les 268 salariés d'Ascoval à Saint-Saulve, près de Valenciennes. La justice va soit entériner l'une des offres examinées, soit placer l'entreprise en liquidation. Et puis Ligue des Champions, large victoire du FC Barcelone, 3-0 contre Liverpool.
Europe 1.
Des tensions, des dégradations et des affrontements ont donc émaillé le cortège parisien du 1er mai qui a réuni 40 000 personnes. Ce que l'on retiendra aussi, c'est cette intrusion dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Une trentaine de personnes ont d'ailleurs été placées en garde à vue. Peu après 16 heures, des manifestants ont forcé la grille de l'établissement. La directrice de l'hôpital évoque des gilets jaunes et des individus au visage dissimulé. Elle a appelé la police en raison des gestes violents et menaçants. Des individus qui ensuite se sont dirigés vers le service de réanimation chirurgicale qui accueille des patients particulièrement vulnérables. Des images de vidéosurveillance vont être épluchées par les enquêteurs. Mais déjà, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, emploie le terme d'attaque pour qualifier cette intrusion.
Aujourd'hui, en France, il y a des gens qui attaquent un hôpital et une réanimation. Je crois qu'on touche le fond de la bêtise et de la violence et de la prise de risque pour ceux qui sauvent des vies. Je pense que c'est le cas des forces de l'ordre, mais c'est évidemment le cas des personnels hospitaliers et d'un hôpital comme celui qui nous accueille aujourd'hui, celui de la Pitié-Salpêtrière. J'avoue que là, pour ceux qui font des polémiques sur le déplacement de nos forces de sécurité en moto, ils peuvent constater aussi qu'elles ont un rôle essentiel de rapidité dans la mobilité et la rapidité est essentielle. 10 minutes après, qu'est-ce qui serait passé dans le service de réanimation ?
Ce qui est terrible, c'est qu'ils ont volé le 1er mai en faisant ça.
Parce que les infirmières, comme ceux qui travaillent ici, sont aussi des gens qui, certes, travaillaient aujourd'hui, mais ont aussi leur place dans la revendication sociale, ont aussi leur place dans cette journée qui consacre le droit international au travail. Et au fond, en faisant ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont volé le 1er mai.
Christophe Castaner, au micro européen de Chloé Trion, s'en prendre à un hôpital est inqualifiable, a déploré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle sera d'ailleurs l'invitée d'Audrey Crespo-Marat à 8h15 ce matin sur Europe 1 avant de se rendre à la Pitié-Salpêtrière. À Paris, le défilé du 1er mai, maillé de tension, a surpris certains touristes qui se trouvaient notamment Place d'Italie, comme a pu le constater Romain Hoquet pour Europe 1.
Courir pour s'extirper du nuage de gaz lacrymogène. John et Wendy, un couple d'Américains, reprend son souffle, les yeux rougis.
On avait du mal à respirer, surtout qu'on est âgé, on a 70 ans. J'avais entendu parler des gilets jaunes, donc nous savions que cela allait être différent par rapport à notre très beau 1er mai en France, il y a 10 ans.
Okay, bye. Un mouvement de foule, il faut partir. Paul et Claire, britanniques, se mettent à l'abri. Ils devaient visiter la tour Eiffel. C'est finalement la place d'Italie qu'ils observent sidérés.
Je suis choqué qu'ils utilisent des gaz lacrymogènes dans des endroits aussi touristiques. C'est un peu extrême. Ça a ruiné ma journée à Paris.
Des rues bloquées par des cordons de policiers et une vingtaine de stations de métro fermées. Devant le plan du réseau, les touristes défilent, perdus comme Angèle et sa famille.
C'est complètement nouveau pour nous.
Oui, nous sommes Hollandais et le 1er mai, c'est aussi la journée du travail, mais les magasins, les musées sont ouverts, tout fonctionne normalement.
Un 1er mai parisien dont ils se rappelleront pour ne pas refaire la même erreur l'année prochaine.
Reportage signé Roman Oquet. Un chiffre ce matin, 315 personnes placées en garde à vue à Paris, parmi lesquelles 12 mineurs. Et en région, cette journée de fête du travail a été globalement célébrée dans une ambiance festive. 20 000 personnes à Toulouse, selon la CGT. Plusieurs milliers également à Marseille, Lyon, Dijon ou encore Besançon.
Les salariés d'Ascoval ont dû passer une nuit angoissante. Décision aujourd'hui du tribunal de Strasbourg.
Ouais, le tribunal doit dire s'il valide ou non l'offre de reprise de l'acierie de Saint-Saulve dans le Nord. 268 salariés à bout de nerfs, épuisés par 4 années de rebondissement. Kevin Tuillier.
Pour beaucoup de salariés, c'est l'audience de trop. Après le désistement surprise d'Altifor au mois de mars, ils espèrent enfin être fixés sur leur sort. Et si le dossier de l'entreprise British Steel semble le plus solide avec la reprise de l'ensemble du personnel, le délégué CFDT Bruno Kobzinski n'exclut pas une liquidation.
Ça commence à ressembler un peu à Dallas. C'est un feuilleton violent. La dernière descente à pic, c'est à l'audience de mercredi dernier et je pense qu'on a du mal à s'en mettre de celle-là. Finalement, il y a des clauses suspensives gênantes. Aujourd'hui, c'est clair dans nos tête à tous que le couperet tombera dans un sens ou dans l'autre.
Quelle que soit l'issue de l'audience, les salariés ont créé une association pour attaquer Vallourec. Marcel de Wom, le président, accuse l'ancienne maison mère d'avoir abandonné l'usine en 2014.
Alors, depuis 2014, je crois qu'on en a une. Ouais. On en a mangé. Hein. La pression liée dans l'usine, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont beaucoup le moral. Là. Certaines personnes, ils sont quasiment en dépression. Là. Vallourec, il est pour beaucoup de choses. Ils ont gagné de l'argent grâce aux heures qu'on a produites ici. Et puis du jour au lendemain, il ne fait pas un geste, il nous a abandonnés.
En cas de reprise, l'entreprise choisie devra repartir de zéro. Le carnet de commandes est vide et il faudra redonner confiance à des salariés au chômage technique au moins jusqu'au 13 mai.
Un reportage est signé Kevin Tuillier. Au Venezuela, une manifestante de 27 ans tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle défilait contre Nicolas Maduro. Des heurts qui ont aussi fait 46 blessés. L'opposant Juan Guaido appelle à une grève générale aujourd'hui et à la poursuite des manifestations. Plus de 2 semaines après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le ministre de la Culture, Franck Riester, assure ce matin dans le journal Le Parisien que tout l'argent des dons ira à Notre-Dame. Concernant les 5 ans avancés par Emmanuel Macron pour reconstruire l'édifice, le ministre répond que la priorité, ce n'est pas la rapidité, mais la qualité du chantier. L'objectif des 5 ans pourra être dépassé si besoin. Mathieu, j'ai une question pour vous ce matin. Est-ce que vous faites la sieste pendant la journée ?
Eh bien oui, je suis un peu obligé pour rattraper le sommeil perdu pendant la nuit. Je fais une petite sieste, oui, le matin.
Eh bien, vous avez raison.
J'ai raison.
Une étude révèle que la sieste
qui permet
de récupérer, c'est pour ça que je vous aime, permet de récupérer ça, on le sait, aurait aussi des bénéfices contre l'hypertension artérielle, une maladie chronique qui touche plus de 15 millions de Français. Mélanie Gomez.
Pour prouver les bienfaits de la sieste, ces chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Ils ont d'abord recruté un peu plus de 200 personnes souffrant d'hypertension, mais déjà bien stabilisées grâce à des médicaments. Tous ont été équipés d'un appareil pour mesurer leur pression artérielle en continu sur 24 heures. On les a ensuite répartis en deux groupes, ceux qui ont eu droit à une sieste après le déjeuner d'environ 50 minutes et ceux qui n'ont pas du tout dormi. Résultat, le chiffre de pression artérielle qu'on dit systolique était bien moins élevé chez ceux qui avaient profité d'une heure de sieste. Il était de 12,7 en moyenne sur la journée contre 13,2 chez les autres volontaires. Ce qui fait quand même 5 mm de mercure en moins et cette différence, selon les spécialistes, c'est déjà beaucoup car une baisse de la pression artérielle de seulement 2 mm peut déjà faire chuter de 10% le risque d'avoir par exemple un infarctus pour une personne hypertendue. Conclusion, pour ces chercheurs, désormais en plus des conseils habituels pour ces patients, comme réduire le sel et l'alcool, il va peut-être falloir ajouter une ligne de plus sur l'ordre à savoir sieste à volonté.
Sieste à volonté, c'est pas beau ça ?
Sieste à volonté avec vous ?
C'est bien ça. Je ne sais pas.
Oh, c'est chaud.
On va y aller.
Merci.
Qui va
avec,
C'était le journal de Céline Kallmann, une professionnelle qui ne laisse rien au hasard. Dernièrement, elle nous avait même confié avoir trouvé la parade à l'ennemi numéro 1 du journaliste, le fou rire.
J'apprends à maîtriser mes fous rires. Ouais, c'est de l'auto-hypnose.
L'auto-hypnose, une technique souvent moquée, à tort, ça marche hyper bien, comme nous avons pu le constater hier au moment du fou rire dit de la tige. Dieu sait pourtant que ma réflexion était parfaitement innocente.
Reportage savoureux, je vous l'avais dit.
J'irai moi aussi vous cueillir quelques tiges tout à l'heure.
Des cortèges de l'inverse syndical, pardon. On se souvient que cette journée, pardon, partout dans... Excusez-moi.
Si vraiment femme qui rit, alors votre mari a effectivement du souci à se faire.
Europe 1. Il est 6h08, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Au lendemain d'un 1er mai pour le moins tendu, Fabrice Dalméda revient sur ses fêtes du travail qui ont sombré dans la violence.
Excellent réveil à tous sur Europe 1. Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur le temps du jour. Un ciel mitigé avec des averses, des éclaircies et du vent.
Céline. Oui, les éclaircies, elles seront présentes toute la journée sur la façade atlantique avec du vent. Pour les autres, ciel mitigé avec pas mal d'averses ce matin. Ça va s'arranger un petit peu cet après-midi. Les averses vont se décaler vers l'est. Un mot du reste de la semaine avec demain toujours ce ciel partagé entre nuages et éclaircies. Des averses également. Ça sera un petit peu plus nuageux près des Pyrénées. Samedi, pluie et vent pour toute la moitié nord avant qu'il va bien souffler, soleil et vont également près de la Méditerranée, des températures qui vont commencer à baisser. Il va faire froid ce week-end. Dimanche, toujours beaucoup de vent, retourne un temps sec, mais baisse des températures qui continue. Pour vous donner une petite idée, hein, dimanche matin, la moyenne sera de 3 degrés au nord et de 6 degrés pour moitié sud. 13 pour l'après-midi et 15 en moyenne pour la moitié sud. Voilà, donc on reprend sa petite aide, on ressent un petit peu la doudoune.
Et surtout, on ingère un maximum de calories avec
exactement,
vous, Eva Roque.
Exactement, parce que c'est la journée internationale de la cuisine italienne, donc dites-nous sur Twitter avec le hashtag Europe 1 si vous aimez cette cuisine ou si vous préférez une autre cuisine française ou internationale. Nicolas, il nous dit qu'il adore la cuisine italienne, il est fan de la pizza hawaïenne. Avec ce grand débat, doit-on mettre de l'ananas sur une pizza?
Moi, j'aime bien. Voilà. Stéphane, je ne suis pas d'accord. Voilà. Non, je m'inscris en faux.
Stéphane, il nous dit qu'il préfère une bonne raclette comme vous, Mathieu,
oui,
mais avec du gabisco.
Une raclette hawaïenne, voilà. Une ananas sur le reblochon.
Avec du gabisco, parce qu'il ne sait pas raisonnable sur la quantité. Je ne savais pas ce que c'était le gaviscon, je croyais que c'était un vin.
Non, le gaviscon n'est pas un vin.
Je suis allée vérifier. Voilà, c'est pas un vin gascon, pas du tout. C'est un médicament pour vous faire supporter l'indigestion.
Si on peut le dire comme ça.
Voilà, vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Il est beaucoup plus qu'un journaliste sportif, il est le troisième élément du trio magique. Vous avez aimé les trois ténors? Ils sont un peu leurs dignes héritiers. Roberto Domingo me disait pas plus tard qu'hier, Placido Domingo d'ailleurs, Roberto
oui,
Domingo. Placido Roberto. Placido Domingo me disait pas plus tard qu'hier, lorsque je les écoute, je vais y arriver, j'ai des frissons. Céline Dacosta, Eva Roque et donc Jérôme Lacroix.
On va flancher.
Samuel.
Vivons tout nu
jusqu'au bout de l'extrême limite.
Et Jérôme n'a pas que l'oreille absolue, il a aussi le pied absolu. Voici le journal des sports.
Alors je tiens à rectifier que je n'ai pas participé à cette chorale. Donc c'était que deux ténors.
Vivons tout nu, c'est vous. Vivons tout nu, c'est vous.
Je ne connais pas cette chanson.
Écoutez, c'est un débat qui n'intéresse pas nos auditeurs. C'est forcément vous. À la une du JDS, elles veulent leur 12 juillet 98.
Remporter la Coupe du Monde de foot en France, elles en rêvent. Elles aussi, dans 36 jours, début du mondial féminin France-Corée du Sud le 7 juin au Parc des Princes. La compétition va connaître un coup d'accélérateur. Aujourd'hui, la sélectionneuse française Corinne Diacre dévoile la liste des joueuses qu'elle a choisies. Un beau parcours, magnifierait une discipline en essor en France hein, depuis 20 ans. 165 000 licenciés aujourd'hui. C'est bien, mais peut mieux faire. Le mondial nourrit les espoirs de l'une des bleues les plus expérimentées, la défenseure Wendy Renard.
Ça peut être bénéfique pour tout le sport féminin en termes de structure. On peut franchir encore des paliers en termes aussi de licenciés, parce qu'on voit même après le succès des garçons cet été, il y a beaucoup de petits jeunes qui sont partis prendre une licence. Donc
vous faites quoi le 7 juillet prochain?
J'espère que je vais être devant vous avec le micro et je vais vous dire, je suis championne du monde.
Ah oui, on l'espère. 7 juillet, jour de la finale, Wendy Renard avec Simon Rubin. Rendez-vous ce soir dans le journal de 20h de TF1 pour l'annonce des joueuses retenues pour l'événement.
Est-ce qu'il reste des places pour cette Coupe du Monde?
Oui,
j'ai très envie d'aller voir jouer les filles.
La moitié pour l'instant des billets a été vendue.
Ah, il reste des places alors. On ira. Je vous propose qu'on y aille tous. Très bien. Le foot côté garçon et le show Messi à Barcelone.
Et de deux qui font 600 buts inscrits par le génial argentin pour Barcelone. Son club de toujours un doublé hier au Camp Nou contre Liverpool en demi-finale à la Ligue des Champions. Victoire 3-0 du Barça qui a un pied en finale avant le match retour mardi prochain. Ça, c'est l'ambiance à Rennes hier soir. Le public a fêté ses
footballeurs. Ça, c'est surtout chez vous lors de votre dernier barbecue. Dimanche dernier,
c'est le fil Twitter officiel de la mascotte de Stade Rennais.
Ah, c'est sérieux.
Vous allez voir, mais... Le public a fêté ces footballeurs qui ont présenté le trophée de la Coupe de France, remporté samedi 48 ans après le dernier titre. La fête juste après la petite déception. Résultat nul contre Monaco, 2-2 en 34e journée de Ligue 1. Les Bretons ont mené 2-0, mais en doublé de Falcao a remis à flot les Monégasques. Côté Rennes, Adrien Hunou est l'auteur des deux buts. Il en a pris plein les yeux pendant la fête.
C'est tout simplement magnifique, hein, comme je disais, de pouvoir communier ça avec... Avec les supporters, c'était tant attendu et je pense que ce soir, c'est une belle page du Stade Rennais qui est écrite.
Les cas de Neymar et Kylian Mbappé au programme de la commission de discipline de la Fédération. Aujourd'hui, le Brésilien pour une petite tape à un supporter rennais provocateur après la défaite en Coupe de France. Mbappé après son exclusion sur carton rouge pour un tacle trop appuyé pendant la rencontre. Les deux hommes pourraient être suspendus plusieurs matchs.
Et puis des nouvelles rassurantes d'Iker Casillas.
Le gardien espagnol, joueur de Porto, hospitalisé hier en urgence après un infarctus pendant l'entraînement. Il a été opéré et assure sur ses réseaux sociaux que la situation est, je cite, sous contrôle.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Peut-être les premiers pas d'une reconversion. Teddy Riner, double champion olympique de judo, aurait été choisi par France 2 à la co-animation d'un futur jeu de parcours d'obstacles, selon le site Pure Média. Un anonyme poursuivi par un sportif de haut niveau doit franchir la ligne d'arrivée en premier lors d'un parcours semé d'embûches. Voilà le concept.
Mais comment vous voulez arriver premier s'il y a Teddy Riner derrière vous?
C'est justement Teddy Riner, lui.
Présente.
Il officierait en co-animateur aux côtés d'un animateur de métier. On ne sait pas encore qui, si vous voulez candidater.
D'accord, non, mais certainement pas. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et au moment de passer la parole à Fabrice Dalméda, notre monsieur histoire, j'aimerais revenir sur sa belle performance d'hier. S'il y a un sujet sur lequel il ne fallait pas déraper, c'était bien les 25 ans de la mort d'Ayrton Senna. Mais voilà, il doit y avoir une malédiction. Fabrice aussi a raté quelques virages.
Le pilote brésilien s'était lancé au volant de sa Williams Renault. Quand la colonne de direction cède, immobile après le stop. Après le choc, il avait été vice-champion du monde de karting. Ils iront jusqu'à l'accrossage.
Allez Fabrice, on enlève le frein à main et on y va.
Merci beaucoup.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Hier avait lieu la manifestation traditionnelle du 1er mai, manifestation émaillée de violence. Est-ce que de tels événements sont rares finalement dans l'histoire de cette fête?
En fait, le 1er mai est né dans la violence. Il est célébré une première fois aux États-Unis en 1886 à l'appel d'organisations ouvrières pour obtenir la journée de 8 heures. Et cette grève qui se prolonge 3 jours fait plusieurs morts. Et c'est en mémoire de ce drame que l'International Socialiste, créée en juillet 1889, décide d'une journée annuelle d'action pour les travailleurs le 1er mai. Or, dès le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord, en France, 9 ouvriers sont abattus par la troupe au cours d'une manifestation pacifique.
Mais le 1er mai n'a pas toujours été aussi sanglant.
Non, heureusement. Dans l'entre-deux-guerres, les socialistes et les syndicats sont mieux insérés dans la vie publique. Ils obtiennent la journée de 8 heures en 1919 et font des manifestations dans le calme. Mais déjà, le 1er mai 1934, les communistes attaquent les policiers jugés complices des ligues fascistes à Paris et en banlieue parisienne comme à Alfortville où ils dressent des barricades.
Et depuis la Seconde Guerre mondiale?
Le 1er mai est enfin légalisé en 1946. La fête du travail est un jour férié, chômé et payé. Et rares sont les syndicalistes qui pratiquent des violences. Il y a bien les sidérurgistes de Longwy, le 1er mai 1979, qui ont assiégé leur commissariat. Mais les violences viennent d'ailleurs. Dès le 1er mai 1968, les étudiants font des violences dans le Quartier Latin. Puis trotskistes et maoïstes prennent la rue. Dès le 1er mai 1970, barricades, bagarres contre les forces de l'ordre. Le mouvement des autonomes prend le relais en 1978, 1979, bris de vitrine, attaque des policiers, viendront dans les années 90 des altermodalistes, puis les Black Blocs en 2016, on l'a oublié, 2017, on l'a oublié, 2018, on l'a oublié, si bien que les heurts de ce 1er mai 2019 ne paraissent pas exceptionnels au regard de l'histoire. Ils nous rappellent que la fête du travail est encore enjeu de lutte politique et sociale, avant d'être seulement un jour de repos.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité, on vous retrouve demain. Peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent, 2 heures d'actu et d'invités pour la décrypter. Il y a 500 ans, jour pour jour, disparaissait un des plus grands génies que la Terre ait jamais porté.
Bernard Montiel.
Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, alors que le tableau le plus cher du monde qui lui est attribué a disparu et qu'une mèche de ses cheveux va être exposée dans sa ville natale, nous revenons sur l'histoire de Léonard de Vinci avec un expert, Mathieu Deldic, auteur du Que sais-je, consacré à l'inventeur le plus célèbre de la Renaissance.
Bon réveil à tous, il est 6h18.
Europe 1.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Entre 150 000 et 300 000 personnes, militants syndicaux et gilets jaunes ont manifesté hier dans toute la France. Une ambiance plutôt bon enfant en région, mais tendue et confuse à Paris. Des manifestants notamment fait brièvement irruption dans l'hôpital de la Salpêtrière. Une trentaine de personnes a été placée en garde en vue après cet acte qualifié d'attaque par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Les obsèques du rocker Dick Rivers vont se dérouler cet après-midi à l'église Saint-Pierre de Montmartre à Paris. L'inhumation, elle aura lieu ensuite au cimetière Montmartre, dans la plus stricte intimité. Enfin, Messi trop fort pour Liverpool. Auteur de deux buts, l'attaquant argentin a largement contribué à la victoire du Barça 3-0 en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Match retour mardi prochain à Anfield.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Voici pour les principaux titres de ce jeudi 2 mai. L'actualité, c'est aussi un anniversaire. Il y a 500 ans, jour pour jour, disparaissait Léonard de Vinci. À cette occasion, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella, le président italien, se retrouveront en fin de matinée au château royal d'Amboise, où l'artiste a passé les dernières années de sa vie. Une rencontre qui lance les festivités liées aux 500 ans de la Renaissance. Bonjour Mathieu Deldic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes conservateur du patrimoine au musée Condé, auteur d'un Que sais-je sur Léonard de Vinci. Qu'est-ce qui fait que 500 ans après, quand on pense génie, le premier nom qui vient à l'esprit est toujours Léonard de Vinci plus qu'Einstein, Nietzsche ou Eva Rock? Qu'est-ce que Léonard avait de plus que les autres, finalement?
Je pense que Léonard incarne la Renaissance à lui tout seul. Il est très très curieux, il s'intéresse à la fois à l'art, mais aussi aux sciences, à l'ingénierie, à la cosmographie, etc. Donc c'est, en fait, il incarne à lui-même cette immense période qui a permis de sortir du Moyen-Âge et de s'intéresser finalement à tous les pans de la connaissance humaine. Et donc il symbolise ça à lui tout seul, et finalement c'est pour cela qu'il est passé à la postérité.
C'est aussi, on peut le dire, ça ressort de vos propos, c'est la transversalité de son génie qui fait qu'il est à part. C'est-à-dire que c'est une époque où il y avait encore des gens qui pensaient le monde dans sa globalité. Il était à la fois peintre, inventeur, il était mathématicien, il touchait à tout. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas quelqu'un qui soit à la fois un grand peintre et qui soit un ingénieur de haut niveau. Par exemple, on penserait, ça n'existe plus, il y a une trop grande spécialisation. C'était une époque où c'était encore possible.
Oui, les artistes, en tout cas les grands artistes, sont beaucoup plus polyvalents qu'on ne peut le penser aujourd'hui. Et d'ailleurs, on a tous cette image en tête de ce dessin de Léonard de Vinci, oui, comme un philosophe avec des longs cheveux, comme un vieux sage finalement. Et en fait, cette image qui est passée à la postérité, mmh, elle était assez juste, hein, parce que lui-même finalement se considérait comme, pas seulement comme un peintre ou comme un sculpteur, mais comme un grand savant. Et d'ailleurs, son œuvre l'atteste.
Alors, Léonard de Vinci déchaîne toujours les passions 500 ans après. Cette semaine, on a assisté à une polémique sur la disparition du Salvator Mundi, une des peintures qui lui est attribuée en tout cas. Ce tableau aurait disparu alors que c'est le tableau le plus cher du monde. Est-ce qu'on a des nouvelles de ce tableau? Vous avez une idée d'où il peut être?
Alors moi personnellement j'en ai pas, je suis comme tout le monde. Malheureusement il n'est pas à Chantilly, mais on a d'autres trésors de Léonard.
L'autre polémique autour de ce tableau, c'est qu'on ne sait même pas si c'est Léonard de Vinci qui l'a peint. Il y a plusieurs tableaux comme ça qui font polémique, qui lui sont attribués, mais on n'est pas tout à fait sûr.
Oui, en fait le corpus, l'œuvre de Léonard est finalement assez restreint. C'est-à-dire que vous avez entre 15 et 20 peintures.
Hein. Ah oui, c'est très peu.
Par contre, on a des centaines et centaines de dessins. Et ça, c'est assez rare, avec beaucoup aussi de croquis, de carnets. Et donc, étant donné que c'est l'artiste le plus célèbre du monde, dès qu'il y a une œuvre qui pourrait être de sa main ou de son atelier, etc., évidemment, les passions se déchaînent.
Eva Rock.
Mais alors justement, dans votre musée de Condé, vous possédez ce qu'on a baptisé la Joconde nue. Est-ce que Léonard de Vinci est l'auteur de ce dessin qui serait le croquis, l'esquisse de la Joconde?
Alors, c'est un grand dessin qui a la taille d'un tableau, qui est préparatoire à un tableau. Elle s'appelle la Joconde nue, mais en fait, c'est pas Mona Lisa qui a posé nue pour Léonard.
Hein. C'est bien dommage. D'ailleurs.
C'est bien dommage.
Parce que si vous avez ce tableau-là, je pense que je vais faire une cagnotte litchi et je vais investir.
Alors, en fait, c'est plus intéressant. En fait, c'est un personnage féminin dénudé qui a la même position que la Joconde, mais c'est pas le même modèle. Et en fait, ce dessin a été acheté au 19e siècle par le collectionneur de Chantilly comme un Léonard, et ensuite il a été désattribué parce qu'en fait on l'a trouvé un peu étrange, cette Joconde nue. Et en fait, on a réalisé des analyses scientifiques tout à fait récemment, et les résultats ont été stupéfiants. C'est-à-dire qu'on a pu dater le papier, les contemporains de l'époque de Léonard, on a pu voir que c'est une œuvre de grande qualité avec aussi des modifications, c'est-à-dire
donc
que c'est pas
lui.
Une copie, c'est une création. En fait, on a aussi découvert des traits de gaucher. Vous savez que Léonard était gaucher. Alors, On ne dit pas que c'est le nouveau Léonard parce qu'on veut être sérieux, on veut être scientifique. On dit que c'est fait dans l'atelier Léonard de Vinci, ça c'est certain.
Parce qu'il avait des disciples.
Il avait des disciples, il avait des élèves. Mais très vraisemblablement, le maître y a participé.
C'est marrant, vous l'appelez Léonard.
C'est son pote.
C'est votre pote, en fait.
On sent une certaine complicité.
On l'appelait comme ça aussi à l'époque. Hein, donc, Léonard de Vinci. En tout cas, cette Joconde sera visible à Chantilly entre le 1er juin et le 6 octobre de cette année.
On parlait de la Joconde, évidemment. Pourquoi ce tableau est-il devenu le tableau le plus célèbre au monde? Moi, j'y connais, mes connaissances picturales sont limitées, mais qu'est-ce qu'il a de plus que, je ne sais pas, le radeau de la Méduse? Pourquoi la Joconde? Qu'est-ce qu'il a de si mystérieux?
En fait, dès l'époque de Léonard, c'était un chef-d'œuvre. D'ailleurs, il s'en défait.
Ça, c'est intéressant. J'allais vous demander, est-ce qu'il était, c'était une star à son époque, Léonard de Vinci?
Léonard était une star. Léonard
était une star.
Tout le monde se l'arrachait. Tout le monde voulait, tous les rois, les princes voulaient une œuvre de Léonard, un tableau de Léonard.
Alors, et donc la Joconde. Pourquoi la Joconde?
Pourquoi la Joconde? Dès sa création, finalement, Léonard, il travaille quasiment une quinzaine d'années. Pour lui, c'est sans doute l'aboutissement, un des aboutissements de son œuvre. Il ne cesse de travailler dessus. Et puis, ce tableau est acheté par François Ier en 1518. Hein, il est vendu par un élève de Léonard. Et puis, il fait partie des collections royales, il est copié. Donc déjà, on a un tableau relativement célèbre. En fait, c'est un tableau aussi très efficace. En fait, on dirait qu'on communique directement avec le modèle. Donc, tout ça a été perçu dès le départ. Et puis, en fait, ce tableau est passé à la postérité en 1911 avec le vol de la Joconde. Et ça a contribué. Il y a eu beaucoup de presse, beaucoup de polémiques à ce moment-là.
Est-ce qu'on sait si c'est vraiment la vraie Joconde qui est exposée au Louvre? Parce que c'est toujours, mais il y a toujours ce mythe que la vraie serait cachée justement parce qu'elle a tellement de valeur et qu'on verrait pas le vrai.
Non, je pense que c'est le vrai. Je pense que c'est vrai. Mais c'est vrai qu'elle suscite tous les fantasmes, cette Joconde. Ouais. On pense que c'est un homme. Il y a un million de significations, de théories. Sans doute, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est Mona Lisa, cette riche Florentine, femme d'un marchand de soieries. Chacun a sa propre théorie. Et c'est ça aussi le génie de Léonard, c'est qu'il est polysémique et tout le monde peut apposer à cette Joconde la signification qu'il veut.
Merci beaucoup Mathieu Daliguet d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes, je rappelle, le conservateur du patrimoine du musée de Condé à Chantilly où le public peut admirer notamment cette Joconde nue qui donc est bien, selon vous, de Léonard de Vinci. Merci beaucoup.
Europe 1, il est 6h27, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec le journal de Sophie Tussaud et puis la météo avec une journée très mitigée, avec un passage pluvieux et des éclaircies sur la façade ouest.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Céline, si nous faisions un point sur la météo, des averses ce matin un peu partout.
Oui, le changement de temps s'est amorcé hier par le nord-ouest et la perturbation avance. On retrouve ces pluies ce matin sur une grande partie du pays, des Hauts-de-France aux Pyrénées, du Languedoc-Roussillon à la Lorraine en passant par le Massif central où on a un petit peu de neige et puis la Bourgogne également. C'est plus calme sur la façade atlantique avec du vent, sur l'Alsace également et la pointe sud-est où un soleil voilé sera encore bien présent. Cet après-midi, la perturbation va se décaler vers le centre-est entre le Massif central Alsace et les Alpes du Nord avec de la pluie, de la neige toujours en altitude. Et puis ailleurs, ce sera un ciel partagé entre nuages, éclaircies, averses ponctuelles, soleil toujours sur la façade atlantique avec du vent et soleil bien plus généreux sur les côtes méditerranéennes.
Une bonne nouvelle, les températures matinales sont en hausse.
Oui,
Céline.
Puisque le ciel est bien nuageux, donc ça n'a pas beaucoup baissé cette nuit. 6 degrés à Besançon, 9 à Caen, 10 à Bastia, Lyon, Bordeaux, 12 à Paris, 14 à Montpellier, 18 à Perpignan. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle baisse cet après-midi. La moyenne sera de 14 à 19 degrés, il en fera 15 à Paris, encore 18 à 23 tout de même près de la Méditerranée. Une baisse des températures qui s'avance et qui va continuer au moins jusqu'à lundi.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui ose tout et c'est même à ça qu'on le reconnaît. Cela dit, attention, n'allez pas croire que je suis complètement fou non plus. Hein. Certes, j'aime à agrémenter l'info sérieuse de quelques digressions potaches, mais je sais aussi quand m'arrêter. On me demande parfois, Mathieu, tu ne t'auto-censures jamais sur les extraits sonores que tu diffuses? Si, ce matin, vous avez échappé à ça.
Une fois, je vais me faire épiler. Et la nana, elle me demande...
Et voilà. Suspense. Vous voyez, je sais aussi être sage parfois. Eux, contrairement à moi, ils n'ont peur de rien. Politique, économie, médias, chaque matin, les trois fantastiques attaquent l'actu bille en tête. Au programme du jour, le marché des smartphones en berne et les coulisses du séminaire gouvernemental.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Ouais, je peux le dire. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par Sophie Tussaud. Bonjour Sophie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
La journée était annoncée à haut risque. Les violences ont finalement été contenues à Paris lors des manifestations du 1er mai. L'événement est culturel, mais la rencontre diplomatique. Emmanuel Macron reçoit le président italien en Touraine pour célébrer les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Et puis elles sont 23 footballeuses à retenir leur souffle. La liste des joueuses qui participeront au Mondial le mois prochain en France sera dévoilé ce soir à 20h.
Europe 1.
Ils étaient entre 150 à 300 000 à défiler hier dans les rues de France pour le 1er mai. Une ambiance globalement bon enfant en région. À Paris, en revanche, des tensions et des violences, mais loin du séisme annoncé par les autorités. Et s'il y a eu des affrontements entre activistes radicaux et forces de l'ordre, il y a eu au final assez peu de dégâts, Jean-Jacques Herry.
Premier constat, les maigres dégâts se concentrent dans le même secteur, celui de la place d'Italie, le lieu d'arrivée de la manifestation. Dans les petites rue près du boulevard Saint-Marcel, lieu d'affrontement entre Black Bloc et policiers, le macadam a été arraché. Il a ensuite servi de projectile contre les forces de l'ordre, mais aussi pour viser une petite dizaine de vitrines sur le boulevard. Certaines sont simplement abîmées, d'autres entièrement brisées. C'est ce que constate Gérald, agent immobilier.
Il doit y avoir une dizaine de pavés. Alors je ne sais pas, ils ont trouvé ces morceaux de pierre d'ailleurs. Apparemment, je crois que les CRS les ont chargés devant la vitrine, ils étaient là. Voilà, on était en première ligne, quoi. Il y a tout le côté là, de la rue quand même qui est bien abîmé, hein. Le boulevard Saint-Marcel, ce côté-là, il a quand même bien pris, quoi, en fait, hein.
Tout près de là, quatre d'eux rougissent sur le trottoir, calcinés. Et une agence de la Caisse d'épargne a été taguée et abîmée. Une exception, car contrairement à certaines manifestations précédentes, les banques ne semblent cette fois-ci pas avoir été particulièrement visées sur le parcours. Certaines n'avaient prévu aucune protection. Elles n'ont pourtant subi aucun dégât, mis à part de grandes inscriptions peintes en jaune, voleur, point d'exclamation, ou encore injustice fiscale. Des slogans propres aux gilets jaunes plus nombreux sur les murs que les messages anticapitalistes ou anarchistes pour une fête du travail aux dégâts finalement très limités.
Jean-Jacques Herry, deux faits marquants lors du défilé parisien. Philippe Martinez, le leader de la CGT, a dû être exfiltré après une charge des policiers et l'intrusion de plusieurs dizaines de personnes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui ont tenté d'entrer dans le service réanimation. Dounia est une patiente de l'établissement. Elle était présente hier au moment des faits.
Subitement, tout a chauffé. On voyait les CRS courir, lacrymogène, et puis après, il y avait d'autres personnes qui ont ouvert le grand portail. Ils étaient une cinquantaine pour le faire tomber à terre. Il fallait avoir de la force. Il y a eu un grand portail avec des barreaux qu'ils ont fait tomber à terre. Mais après, ils sont introduits dans l'hôpital. Mais les agents de sécurité ne pouvaient rien faire avec ces gens-là.
C'était nombreux, violents.
Ah bah oui, oui. On voyait que c'était de la violence.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Thomas Roussel. Christophe Castaner a estimé que le 1er mai avait été volé par la violence de quelques-uns. Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, a annoncé son intention de porter plainte. Des activistes antispécistes aujourd'hui devant la justice. Deux militants, un homme et une femme, accusés d'avoir vandalisé une poissonnerie, un restaurant et une boucherie au printemps dernier, vont comparaître devant le tribunal correctionnel de Lille. Lionel Gougelot.
Boucherie, restaurant, rôtisserie et poissonnerie, tous ces commerces alimentaires avaient été la cible de tags, de jets de faux sang, avec parfois des vitrines fracassées parce qu'ils sont le symbole, selon ces activistes antispécistes, de la souffrance animale. On avait même découvert une nuit des dégradations sur le monument en hommage aux pigeons voyageurs utilisés comme messagers par l'armée lors de la Première Guerre mondiale. Mais chez les commerçants, cette série d'agressions avait provoqué un début de psychose et surtout une vraie colère, comme pour ce gérant de rôtisserie dans le quartier d'Oisem.
Beaucoup d'incompréhension, beaucoup d'énervement et de frustration. C'est sûr que nous, on essaie de se démener pour faire vivre le quartier. Et c'est vrai qu'arriver le matin et voir notre vitrine et notre outil de travail vandalisé comme ça, c'est très frustrant et très écœurant. On voit bien que c'est vraiment les mêmes graffitis, les mêmes jets de pierre. On se demande quand est-ce que ça va s'arrêter.
Identifiés à la suite de plusieurs semaines d'enquête, les deux activistes avaient été interpellés en septembre dernier, quelques jours seulement, avant une nouvelle journée d'action prévue par la mouvance végane contre les boucheries. Lors de l'audience de comparution immédiate, l'un des deux prévenus avait nié les faits, tout en regrettant qu'il faille casser pour faire entendre la cause de la souffrance animale. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Épilogue judiciaire attendu aujourd'hui pour Ascoval et ses 270 salariés. Après des mois de suspense et de multiples rebondissements, l'aciérie du Nord saura ce matin si elle est reprise par le groupe British Steel ou liquidée. La décision est attendue à 9h.
Europe 1, il est 6h35.
Les présidents français et italiens, main dans la main aujourd'hui dans les châteaux de la Loire.
Emmanuel Macron et Sergio Mattarella réunis autour d'un événement commun. Ils vont célébrer ensemble à Amboise et Chambord les 500 ans de la mort de Léonard de Vinci. Un événement culturel, certes, mais qui servira aussi à retisser les liens entre la France et l'Italie. Adrien Beck.
Léonard de Vinci, symptôme de la mésentente franco-italienne ces derniers mois, symbole aujourd'hui d'une tentative de réconciliation. À deux pas de la sépulture du génie florentin à Amboise, Emmanuel Macron accueillera son homologue italien Sergio Mattarella en fin de matinée. On veut insister sur les liens historiques forts entre nos deux pays. Retrouver le fil d'une amitié, explique-t-on à l'Élysée, où l'on assure que la crise franco-italienne est passée. Il n'empêche, il faut retisser les liens dans l'ombre donc de Léonard de Vinci. Lui dont Paris veut s'approprier l'héritage, s'agaçait ces derniers mois le gouvernement italien. Ajoutez à cela les passes d'armes sur l'immigration, cheval de bataille du très droitier et très puissant Matteo Salvini, le soutien aux gilets jaunes du ministre 5 étoiles Luigi Di Maio, très mal perçu à Paris. En recevant son homologue, un chrétien démocrate pro-européen avec qui il entretient de bonnes relations, Emmanuel Macron enjambe donc le gouvernement populiste. Message très politique à 3 semaines d'élection où Matteo Salvini et ses alliés pourraient réaliser une percée au Parlement européen.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Au Venezuela, les violents heurts entre forces de l'ordre et manifestants pro-Guaido tournent au drame. Une femme a été tuée après avoir reçu une balle dans la tête. 27 personnes ont été blessées. Le leader de l'opposition a appelé à une grève générale. Le président Nicolas Maduro, de son côté, jure de châtier les traîtres. Alors que le pays est plongé dans la crise, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a déclaré hier que Donald Trump était prêt à faire intervenir l'armée américaine.
Neymar va-t-il payer son coup de sang après la défaite du PSG samedi en Coupe de France ?
Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le joueur brésilien assénant un coup à un supporter rennais qu'il avait provoqué au moment de la remise des médailles. La commission de discipline de la Fédération française de football va statuer aujourd'hui et ce geste pourrait lui coûter cher, Julien Froment.
Selon les règlements de la Fédération française de football, Neymar encourt 2 types de sanctions. Soit la qualification de bousculade volontaire, tentative de coup en dehors d'une rencontre est retenue. Là, c'est au maximum 6 matchs de suspension. Soit la commission estime que le Brésilien s'est rendu coupable, je cite, de brutalité ou coup pouvant occasionner un arrêt temporaire. Et là, la sanction peut monter jusqu'à 10 matchs. Alain Roche, consultant football pour Europe 1, demande la clémence pour l'attaquant parisien.
Je ne veux pas dire qu'on aurait fait pareil, mais c'est une réaction qui peut être humaine. Mais c'est vrai, quand on est un homme public et qu'on s'appelle Neymar, on ne doit pas avoir ce type de réaction. Et j'espère que la commission de discipline sera indulgente, ne sera pas trop sévère et comprendra un peu qu'un sportif déçu peut mal réagir.
Neymar pourrait passer entre les gouttes si la provocation du supporter est considérée comme un facteur atténuant. Alors la sanction pourrait être allégée. Le Paris Saint-Germain sera informé du verdict d'ici vendredi. Mais il se pourrait bien que Neymar ait disputé contre Montpellier son dernier match de la saison.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Autre cas examiné aujourd'hui par la commission de discipline, celui de Kylian Mbappé exclu sur carton rouge samedi soir lors de la finale après un tacle un peu trop appuyé. On reste dans le football avec cette liste très attendue ce soir à 20h, celle des 23 joueuses qui participeront dans un peu plus d'un mois à la Coupe du Monde féminine qui va se dérouler en France. Et Gaëtane Tinet, attaquante des Bleus, est impatiente que l'événement arrive et veut rester concentrée.
Ça va être merveilleux à vivre, voilà, tout simplement. Il faut voir les choses positivement, mais c'est avant tout une compétition sportive. Nous, on joue au foot, on est des passionnés de football, on s'entraîne tous les jours pour être performante. Donc je pense qu'avant de se mettre la pression sur la femme en France et la médiatisation de notre sport et l'augmentation des licenciés, en fait, ça, c'est des conséquences qui vont en découler. Mais il faut surtout qu'on reste concentré sur notre parcours sportif et qu'on soit non pas inhibé, mais porté par l'émulation l'émulation du public français qui va nous porter à travers cette compétition.
Gaëtane Tinet, attaquante des Bleus au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sophie Tussaud. Et à présent, avant de lui laisser la parole pour un point météo, j'aimerais saluer le travail de Céline Dacosta, qui est plus qu'une meneuse de jeu, un véritable soutien psychologique pour Eva Rock, qui fait des journées de 15 heures. Elles sont d'ailleurs toujours l'une pour l'autre. elles sont présentes l'une pour l'autre tout le temps, comme Catherine et Liliane.
Tu sais, j'ai un petit épicier en bas de chez moi, là, vraiment dans, au pied de mon immeuble.
Et il te voit partir le matin
Quand je rentre le soir, c'est lui où il y a l'heure à laquelle il ouvre à peu près, tu vois, ouais. Qui il hallucine.
Ouais,
quoi.
Sur tes horaires, mais non, mais moi aussi, j'hallucine. Et j'ai pas d'épicerie.
Elle n'a pas d'épicerie. toujours un mot. C'est incroyable, Céline.
Qu'est-ce ça nous a bien fait rire. Oui, dites-moi.
Quelle nouvelle sur le fond de la météo aujourd'hui.
Pas d'épicerie, c'est bien pratique pourtant.
Des averses ce matin un peu partout. Oui. Ce n'est pas très bien ça, Céline.
Mais non,
pas bien travaillé.
Je suis désolée. Bon, gueulez pas, non. Oui, le changement de temps s'est amorcé déjà hier par le Nord-Ouest. Oui, c'est pas de ma faute. Et la perturbation avance. On va retrouver des pluies ce matin sur une grande partie du pays. Des Hauts-de-France aux Pyrénées, du Languedoc-Roussillon à la
Mais
Lorraine.
Vous n'avez pas d'épicerie.
Je n'ai pas d'épicerie en bas de chez moi, c'est très pratique. À la Lorraine, en passant par le Massif central, la Bourgogne, c'est plus calme ce matin sur la façade atlantique avec du vent sur l'Alsace également et la pointe sud-est, pardon, où un soleil voilé sera encore bien présent. Cet après-midi, la perturbation va se décaler vers le centre-est. Entre le Massif central, l'Alsace, les Alpes du Nord avec de la pluie, de la neige, même un petit peu en altitude. Ailleurs, ce sera partagé, un nuage éclairci averse. Soleil sur les côtes méditerranéennes, il va bien revenir cet après-midi. Et puis toujours des éclaircies sur la façade atlantique, mais avec beaucoup de vent.
Quid des températures matinales? Je me suis laissé dire qu'elles étaient en hausse.
Oui, pour effectivement ce matin, ça grappe un peu. 6 degrés à Besançon, 10 à Bastia, à Bordeaux, 12 à Paris, jusqu'à 18 à Perpignan. Et par contre, ça baisse cet après-midi, 14 à 19 degrés, ce sera la moyenne. Encore 18 à 23, tout de même près de la Méditerranée.
Vous savez quoi, Céline?
Oui.
Je vous ai trouvé super et je n'ai pas d'épicerie.
Eh ouais. Bien dommage.
5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, dans les ténèbres de l'actu, les trois fantastiques vous éclairent de leurs puissantes torches. Au sommaire notamment ce matin, rien que pour vous, les coulisses du séminaire gouvernemental.
Oh, mais c'est pas possible.
Ah, tout est possible pour Mickaël Darmon.
Excellent réveil à tous, il est 6h41. Il est 6h42, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Forte mobilisation, des violences, mais le pire a été évité hier lors des manifestations du 1er mai. Ambiance globalement bon enfant en région. Des tensions et des violences en revanche à Paris. Philippe Martinez, le leader de la CGT, a dû être exfiltré du défilé. Autre fait marquant, l'irruption de dizaines de personnes à l'intérieur de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui ont tenté d'entrer dans le service de réanimation. Le Venezuela plongé dans la crise, toujours de violents heurts entre manifestants et forces de l'ordre à Caracas. Une femme a été tuée d'une balle dans la tête. Donald Trump se dit prêt à envoyer des troupes américaines sur place. Et puis la liste des 23 bleus dévoilée ce soir, la 8e édition de la Coupe du Monde de football féminin démarre le 7 juin en France.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Comme disait Elvis Presley, it's long, never. C'est maintenant ou jamais. Probablement le moment le plus attendu de cette matinale, la séquence des trois fantastiques. Et Baroque pour les médias, Emmanuel Duteil pour l'économie, Mickaël Darmon pour la politique, autrement dit, la fine fleur des éditorialistes de la bande FM. Chaque matin, en les entendant arriver, vous vous dites...
Là, 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 oh, ça dure combien de temps? Oh, j'ai le temps d'aller faire pipi.
Mais non, vous vous dites justement, faut que je me retienne, je peux pas rater ça. Bref. On démarre à d'abord avec la politique. Avec vous, évidemment, Mickaël Darmon. Oui, je brode car je cherche la page, mais je l'ai trouvée. Le test du 1er mai est passé. Pas question pour autant pour le gouvernement de relâcher la pression imposée par le président de la République mardi lors du Conseil des ministres. Et selon vos informations, il y a de la menace dans l'air.
Et oui, c'était d'abord une leçon inédite de politique hein, faite au ministre dans le plus pur style présidentiel, direct et cash. Alors nous sommes effectivement mardi, hein, autour de la table du Conseil des ministres. Le président vient d'écouter l'agenda du gouvernement pour mettre en musique donc ces mesures. Et là, le président avertit ses ministres à la fin du Conseil. J'attends de vous que vous changiez de méthode et que tout aille plus vite. Je n'ai pas fait 90 heures de débat pour expliquer les moindres détails de notre action pour que vous fassiez comme d'habitude, dit Macron. Et il continue. Je veux que vous preniez maintenant des permanences comme le font les élus pour connaître les problèmes sur le terrain. Puis le président évoque la campagne des européennes. En décembre, vous étiez mort et moi peut-être. La campagne commence maintenant, allez-y à fond. Et là, selon un récit concordant entre plusieurs ministres, eh bien, il assène donc le coup final. Si on se prend une tôle aux élections, on ne va pas se réunir de la même manière autour de cette table. Je peux vous dire que cette déclaration très commentée dans les couloirs du gouvernement, ça sonne au moins comme une menace de remaniement. Mmh. On imagine aisément la pression des ministres, un message du chef Macron reçu 5/5, où la majorité remporte les européennes, où c'est à vide tempête au gouvernement.
Alors pourquoi cette pression du président sur les élections?
élection.
Puis en fait, il faut savoir que le président Macron est agacé par un fait. Pour lui, les ministres, à part quelques exceptions notables, sont beaucoup trop en retrait. C'est toujours la même chose selon lui. Ils ne font pas assez de politique. Ils ne défendent pas assez leur camp. Pas assez de députés, pas assez de ministres dans les médias pour défendre la liste Renaissance. Et en réalité, au-delà du Conseil des ministres, ces jours-ci, c'est toute la majorité qui a été prévenue. Ne pas croire, a-t-on dit aux députés, que cette élection n'aura pas d'incidence sur les départements au niveau circonscription. D'autant qu'en privé, eh bien, Emmanuel Macron ne cache pas son inquiétude et confie ses doutes sur la victoire de la majorité le 26 mai. Mais officiellement, l'heure est aux démonstrations de force. Dès lundi, avec des meetings simultanés, Édouard Philippe lancera la campagne à Caen, aux côtés de Nathalie Loiseau. Enfin, tentera de la relancer après un envol plutôt difficile. Bref, on le voit bien, Emmanuel Macron décrète la mobilisation générale et déclare la Macronie en danger.
Mais comment faites-vous, Mickaël, pour obtenir toutes ces informations? J'ai l'impression que vous êtes caché sous la table au Conseil des ministres comme ça et que vous entendez tout. C'est incroyable.
Il met des petits micros partout.
Il ne peut pas révéler ses sources. Il est là. Il est mystérieux, ce Mickaël Darmon. Merci beaucoup pour votre analyse. Mais il n'en pense pas moins. On passe à l'économie avec vous, Emmanuel Lutet. Et ce matin, on parle téléphone portable. Écoutez. Le marché du téléphone portable.
Tout ça pour ça?
Oui, tout ça pour ça, c'est ma sonnerie de téléphone portable.
D'accord.
Mais vous l'appréciez d'amendement d'Espacito?
Moi j'adore.
Bah, voilà, je sais qui je garde l'année prochaine. Emmanuel Dutheil.
On parle en effet de téléphone portable, on va commencer par une petite devinette. Est-ce que vous connaissez le tiercé? Dans l'ordre des plus grands vendeurs de téléphones portables dans le monde au premier trimestre de cette année.
Moi, Samsung, Apple. Huawei, Apple.
Voilà, bravo, bravo.
Est-ce que j'ai le tiercé dans l'ordre?
C'est bon, c'est dans l'ordre, si je vous dis bravo. Première marche Samsung, en effet, sur la deuxième marche, donc le chinois Huawei, qui vend beaucoup plus de portables qu'Apple. Apple qui se retrouve donc troisième. Selon le cabinet IDC qui publie ces données, ce classement devrait être celui de toute l'année 2019. Si Samsung reste très nettement en tête, les ventes de Huawei, elles, explosent. Et clairement, Apple est aujourd'hui totalement distancé. En tout cas, ce sont bien ces trois marques qui dominent le marché. À eux trois, ils vendent un peu plus d'un portable sur deux dans le monde. Pour vous donner une petite idée, chaque jour, ils vendent tous les trois près de 2 millions de portables.
Par jour?
Par jour. Ah, tous les trois quand même.
Oui, hein. Oui, non, mais quand même.
Et est-ce que ce marché du smartphone se porte dans l'ensemble bien?
Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais c'est un marché en nette baisse. On vend en ce moment moins de smartphones qu'avant.
Mais c'est pas étonnant, on en a tous, enfin quasiment. Enfin,
et ben voilà, c'est une des raisons. Alors, il y a ça, le fait qu'on en ait tous. Une autre raison, c'est le fait qu'il y a un ralentissement économique en Chine. Et peut-être la raison la plus importante, c'est que finalement, il n'y a pas eu ces 2-3 dernières années, ce qui est une éternité dans le monde de la téléphonie, de saut technologique majeur. Les constructeurs attendent maintenant la 5G avec impatience.
La 5G, on en parle beaucoup, mais c'est pour quand?
Eh bien, ça ne va plus trop tarder. Cette année, on va vendre dans le monde environ 1,6 milliard de téléphones 3G ou 4G et seulement 60 millions de 5G, selon un grand spécialiste du secteur. Mais toujours selon lui, ce sera vite 500 à 600 millions de téléphones 5G, c'est-à-dire le potentiel. L'an prochain, Tokyo, par exemple, veut offrir la 5G lors des Jeux Olympiques d'été. La Corée est aussi déjà très en pointe. Alors, nous, on est toujours un petit peu en retard. On parle maintenant de 2021-2022 pour avoir de la 5G chez nous. Alors, ça va doper en tout cas le marché du portable parce que ça va révolutionner les usages. On va pouvoir regarder beaucoup plus facilement des vidéos, charger beaucoup plus vite des pages d'Internet. Et là, inévitablement, ça devrait permettre de booster les ventes de téléphones.
Et sur ce point, quel est le fabricant le plus en pointe?
Alors, il y a déjà Samsung qui est le tout premier constructeur à avoir sorti un téléphone 5G, mais c'est bien Huawei, le chinois, qui pourrait tirer son épingle du jeu. Il est très en avance sur la technologie 5G. Alors, pas obligatoirement sur le téléphone en tant que tel, mais sur tout ce qu'il faut pour que la 5G fonctionne. Selon un expert du secteur, Huawei a une avance technologique de 18 mois sur ses principaux concurrents, comme Ericsson ou Nokia. Et dans ce monde de la technologie, 18 mois d'avance, c'est un monde, que dis-je, une éternité. Du coup, il devra en profiter fortement également pour doper ses ventes de téléphones portables.
Mais vous disiez qu'il n'y a pas eu de saut technologique. Et c'est vrai que pour moi, la 5G, ça a beau aller plus vite, c'est toujours la même chose. C'est pas un saut technologique, il y a pas un changement
radical.
Ça change
tout dans la façon où vous allez pouvoir utiliser votre téléphone.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec son téléphone? Ça va vite,
par exemple, si vous avez envie dans un train de pouvoir regarder un film, mais même en temps réel, c'est-à-dire que ça va couper à longueur de temps.
C'est vrai.
Encore aujourd'hui, si vous voulez regarder un film en temps réel, ça ne peut pas fonctionner. Si vous voulez téléphoner dans le métro, une fois sur deux, ça va casser entre les différentes stations. Donc si la 5G va véritablement permettre, et puis ça va permettre les voitures autonome et tout genre de choses. Donc ça va être...
Dieu nous préserve. Michael Darmon, qui est déjà en 6G, lui, a une petite réflexion.
C'est la vie en temps réel et ça fait beaucoup peur au gouvernement parce que c'est une capacité de rentrer dans tous les endroits stratégiques et d'avoir tous les documents en direct, d'où le problème avec la Chine.
Oh là 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 là. Alors, j'avais pas pensé à ça. Mon Dieu.
Ils sont tombés la 5G. Hein. Pff, on n'en a pas besoin. Allez.
Non, mais franchement, c'est qu'on avait été très en avance sur la 2G et tout ça en France.
Et là,
souvent chez nous, on a des bonnes idées, mais on n'importe pas.
Vous gardez une bonne télévision.
Cathodique,
si vous voulez. Voilà. Et vous allez pouvoir regarder un coup de cœur que j'ai eu pour la nouvelle série d'Arte qui est diffusée ce soir en 6 épisodes qui s'appelle Eden. C'est à 20h55. C'est les deux premiers épisodes pour ce soir. Eden, c'est une série chorale, soit 5 histoires qui sont liées à un même sujet, celui des migrants. Alors, sujet hautement casse-gueule sur le papier et qui pourtant donne naissance à une excellente fiction empreinte de réalisme. La preuve, la première scène, un bateau pneumatique sur lequel sont entassés des migrants débarque sur une plage touristique de Grèce, une scène qu'on a déjà vue dans l'actualité. Et non loin de là, Hélène, incarnée par Sylvie Testu, dirige un camp de réfugiés, structure privée amenée à se développer.
Dès qu'on a le feu vert de Bruxelles, on pourra ouvrir 3 nouveaux camps en Grèce d'ici à la fin de l'année. Dans la foulée, on s'implante en Italie et on pourra passer à l'échelle supérieure. Mutualisation des coûts d'exploitation et augmentation des bénéfices, tout ça sans renier sur la qualité des prestations. C'est ce qui m'importe le plus.
Alors dans ce camp, vous allez découvrir le destin de deux frères venus du Nigeria ou encore celui des deux gardiens. En Allemagne, un peu plus loin, c'est un couple qui décide d'accueillir un jeune Syrien. Et Florian, le fils du couple en question, qui est un ado de 16 ans à peu près, n'apprécie guère ce qu'il vit comme une intrusion dans leur vie quotidienne. Alors avec provocation, il se présente au dîner de famille où est donc présent ce jeune réfugié syrien. Il se présente avec un hijab sur la tête.
Allahu Akbar.
T'es cinglé.
Flo, enlève ça tout de suite, s'il te plaît.
Florian, c'est pas un jeu.
Ben non, c'est un hijab. Si tu veux, tu peux manger seul dans ta chambre. Hein.
Attendez, mais il faut se détendre. Nous voulons que notre hôte se sente chez lui, non? Un peu de tradition, ça fait pas de mal.
Seules les femmes le portent.
Non.
Oui, les femmes musulmanes.
Mais c'est un truc de musulman.
Oui, mais je suis pas religieux.
Alors, hormis un petit problème de doublure de voix que vous venez peut-être d'entendre, parce que la série a été tournée dans plusieurs langues, donc ils ont dû unifier et de faire du doublage. Voilà. Eden est remarquable de justesse et d'intelligence. C'est une fresque humaniste, qui a un atout. La diversité des histoires prouve la complexité du sujet et la multiplicité surtout des points de vue qui s'expriment en la matière. Et cette fiction, elle nous renvoie aussi à nos propres interrogations et nos propres préjugés. Eden est réussi aussi parce qu'au-delà de cette réflexion qui est conditionnée par le sujet, l'arche narratif est passionnant avec des personnages extrêmement attachant, une très belle réalisation signée Dominique Moll, le cinéaste franco-français, j'allais dire, il est allemand et français, à qui on doit notamment Harry, un ami qui vous veut du bien. Eden est à voir sur Arte à 20h55. Regardez cette série.
Merci beaucoup Eva, merci Emmanuel Dutheil, Michael Darmon. Les trois fantastiques seront de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, touche à sa fin l'heure du débrief de la matinale présentée cette semaine par Pierre Devineau. Pierre, avec qui Eva compatit, comme les milliers d'auxiliaires de vie qui nous écoutent chaque matin, elle sait ce que représente la dépendance au quotidien. Elle aussi a bossé avec Laurent Cabrol.
Ouh, je vous vois un peu... oui.
Non, vous savez, j'ai du mal à ouvrir les yeux, mais je vois mes températures.
Ah oui, ça tombe bien.
À la limite, même, je les sens.
Allez-y.
Amusant, mais parfois terrifiant, le débrief arrive.
Excellent réveil, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, l'heure de saluer le vaillant Pierre Devineau, joker de luxe de Nikos Aliagas à la présentation de la matinale. Pierre qui chaque matin dans la rédaction insuffle cette énergie, ce sens de la fête qui est le sien, sa devise, il n'y a pas d'heure pour déconner. Ce matin, la conf de rédac avait à peine démarré depuis 5 minutes, qui nous avait déjà fait la choré de YMCA 3 fois, un coup avec l'Indien, un coup avec le chef de chantier.
Ben non, il y a le pompier, on fait pas le pompier.
Tranché alors Jean-Philippe Ballas, le rédacteur en chef de la matinale. Un silence studieux s'installait alors jusqu'à l'arrivée de Laurent Cabrol qui ne paraissait pas choqué outre mesure de bosser un 1er mai.
On ne peut plus coucher grand-mère depuis qu'elle écoute Hubert. Voilà, c'était ça Hubert. Bon.
Un autre silence s'installa alors, différent du premier. Comme beaucoup de gens qui refusent de regarder le problème de la dépendance en face, Jean-Philippe Ballas tenta de recentrer la conférence de rédaction sur les choix éditoriaux que nous avions à faire. Hélas, quand il brandit le Figaro et déclara « Ouvrez les pages saumon », Villeneuve s'exclama
« Le saumon, surtout, ça bouffe n'importe quoi, donc c'est le cochon de la mer. »
Malgré les efforts de Ballas, on s'éloignait du sujet. La conférence de rédaction patinait. On comprend d'ailleurs pourquoi les rédacteurs en chef s'arrachent les cheveux.
C'est peut-être pour ça qu'ils picolent d'ailleurs.
Non, c'est lui, je vous en prie. Christophe Poiré ne boit pas. En tout cas, jamais pendant le service. Non, le problème à Europe 1, et j'en suis le tragique exemple, c'est qu'on a tendance à se tirer des balles dans le pied. La direction avait pourtant donné une consigne claire aux reporters. Toute allusion aux mauvaises audiences est à bannir. Or, que fait Martin Fenot ?
Bonjour Martin, vous êtes où ce matin ?
Je suis au bord d'un gouffre et je m'apprête à y descendre avec vous.
Ah non !
Merde. Bon, bref, je ne veux plus entendre une seule allusion de ce genre. Enfin, note à la régie, pensez à couper le micro de Laurent Cabrol pendant la chronique de Nicolas Canteloup. C'est évidemment les suites de l'affaire dite du vol de vannes. Il est 8h42, mardi matin, Nicolas Canteloup, l'humoriste star d'Europe 1, fait sa revue de presse, quand soudain, surgit de nulle part, Lolo Cabrol décide de pénétrer illégalement sur le terrain de Nicolas Canteloup pour prendre la parole et faire une vanne. C'est un peu, si vous voulez, comme si Pierre Ménès descendait sur la pelouse du Parc des Princes en plein match du PSG pour montrer à Neymar comment jouer.
Comme pour Notre-Dame de Paris, Monsieur Arnaud va faire un chèque de 17 milliards pour sauver la France.
Oh, mais enfin, c'est n'importe quoi.
Vous savez, monsieur, j'y ricane parce que j'ai l'essence du plaisir.
Canteloup est moins nerveux que Neymar, sinon tu prenais une droite en pleine face.
Merci Mathieu Noël.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.